Bonjour à tous. Dans la deuxième partie de la Grande Table, en avoir ou pas, le talent survalorisé. Aujourd'hui, de la Silicon Valley à l'industrie culturelle, le sociologue Pierre-Michel Menger, dans un ouvrage intitulé « Le talent en débat », revient sur ce concept vieux comme le monde et parle de son actualité. Il sera en discussion avec la cinéaste Claire Simon, la réalisatrice du concours, à partir de 12h55. Mais d'abord, coup d'envoi de la nouvelle saison de la Comédie Française avec un Shakespeare revisité, La Nuit des Rois ou tout ce que vous voulez, avec un metteur en scène invité, l'allemand Thomas Ostermeyer, le directeur de la Schaubühne à Berlin, première collaboration avec la troupe du Français, et Olivier Cadio qui signe ici une nouvelle traduction française de cette comédie shakespearienne. Ils sont tous deux nos invités, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
Il ne se quitte plus après Le songe d'une nuit d'été, Hamlet, Othello, Mesure pour mesure et Richard III. Le metteur en scène berlinois retrouve le dramaturge élisabétain et son traducteur Olivier Cadio pour La Mouette de Tchekhov et Les Revenants d'Ibsen. Déjà, ils sont là ensemble dans ce studio. Bonjour Thomas Ostermeyer.
Bonjour.
Bonjour Olivier Cadio.
Bonjour.
Séparé de son jumeau qu'elle croit noyé à la suite d'un naufrage, Viola échoue en Illyrie. Déguisée en jeune homme, se faisant appeler Cesario, elle entre au service du duc Orsino, dont elle, va tomber amoureux. Sauf que le duc convoite la belle Olivia et envoie Cesario la convaincre de l'épouser, mais elle succombe au charme du messager.
Le déguisement, c'est le mal. C'est une arme démoniaque, si habile. C'est ce sort qui t'a imprimé cette fausseté si séduisante dans un cœur comme dans la cire. À quoi va ressembler la suite? Mon maître l'aime si fort, et moi, pauvre monstre, je l'aime lui terriblement, et elle, par erreur, semble devenue folle de moi. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis un homme. Mon amour pour mon maître est sans espoir. Je suis une femme. Hélas, que d'inutiles souffrances pour la pauvre Olivia. C'est le temps qui démêlera tout ça, pas moi. De dénouer ce nœud n'est pas dans le corps.
Viola, extrait de l'acte 2 de la pièce La Nuit des Rois ou tout ce que vous voulez, actuellement sur la scène de la Comédie Française. Une pièce, Thomas Ostermeyer, sur le travestissement, les identités, le désir et l'altérité. Shakespeare, il abordait ces questions avec plus de simplicité que nous, aujourd'hui, à vos yeux.
Non, je dirais pas. Moi, j'étais très surpris du fait que tout ce qu'on discute aujourd'hui, tout ce qu'on connaît, qu'on pensait depuis Judith Butler, on peut le déjà retrouver chez lui, on peut déjà voir un certain trouble sur le genre, sur l'orientation sexuelle. Il y a les relations homosexuelles super fortes dans la pièce, super importantes, et il y a cette faux finale où ils essayent de reconstruire un monde qui est en vrai en déconstruction.
Sans anachronisme pour vous, Olivier Cadio, Shakespeare, c'était du Judith Butler avant l'heure?
Oui, bien sûr. Mais tout est trans dans cette pièce, puisque c'est pas seulement les problèmes, les questions sexuelles qui sont absolument inversées, troublées, même si dans la réception française on n'allait pas jusque-là, jusqu'ici peut-être, mais c'est aussi un immense test, mais aussi religieux, cosmologique, en 1601, tout en train de tourner. Et ils le savent. Enfin, Shakespeare le sait plus ou moins, on va dire. Et donc, c'est une exposition d'un trouble généralisé et qui est un drame, mais qui est à la vertu ici d'être traité comme une comédie, ce qui est un coup de génie. De traiter de manière si drôle des choses aussi graves, c'est splendide.
Et cette pièce, Olivier Cadio, pour expliquer, elle a évidemment déjà été traduite, La Nuit des Rois de Shakespeare.
Bien sûr, hein.
Pourquoi avoir...
Retraduit.
Retraduit.
Il faut toujours retraduire, déjà. Bon, parce que, d'une part, on était d'accord d'emblée pour le traduire en prose, d'abord pour des raisons de fluidité, comme on avait déjà fait pour la mouette, ça. Mais
donc, là, mettre une croix sur les vers, la
versification. Oui, parce que de toute façon, on n'a pas de vers français pour accueillir le vers shakespearien aujourd'hui. Peut-être qu'en 2054, il y aura des nouveaux vers. Mais là, pour l'instant, on fait des faux octosyllabes ou des faux alexandrins, ce qui n'est pas la poésie d'aujourd'hui. Donc, il faut aussi au moins avoir, faire honneur à un auteur en l'accueillant dans une forme non pas moderne ou actuelle au sens péjoratif, mais au sens un peu d'intemporel. On peut pas le faire, on peut pas faire une traduction datée déjà du 19e. Donc on est obligé, comme on peut, voilà. Et du coup, ça a été une expérience passionnante de le mettre en prose. Et pour terminer, je dirais que si on le met en prose, c'est-à-dire qu'on le simplifie, on donne du sens à ce qui est ornemental, bah à un moment donné, la pièce est claire, parce que les choses qu'on imagine un peu de loin baroques ont toutes du sens. Alors on leur donne du sens. Et après, il faut redonner une forme, et j'espère que j'y suis un peu arrivé à redonner une structure, une armure, parce que c'est des gens qui parlent, qui se battent en parole. Ils se battent pas avec des vraies épées, comme on le voit dans la pièce.
C'est-à-dire que cette nouvelle traduction, vous vous êtes interdit de toucher au corps ou au cœur du texte, à l'esprit de la pièce. Vous avez cherché à jouer sur les nuances.
C'est une traduction, alors après on peut me reprocher des choses, mais elle est le plus exacte possible. C'était ça qui était amusant. Ce n'est absolument pas une traduction, comme on dit à l'université, une traduction de poète. Alors c'est vrai que je suis auteur, donc il y a toujours une confusion. Thomas Ostermayer a fait une adaptation de cette pièce dans un second temps. Il a été aussi coupé, découpé, refaire et aussi faire improviser des acteurs, il en parlera mieux que moi, pour donner du sens en plus shakespearien et actuel en même temps. Mais la traduction, et c'est pour ça que je l'ai publiée pour la première fois, parce que je publie pas mes traductions, sauf la traduction de la Bible, d'habitude, elles sont déjà adaptées, elles sont faites pour la scène, là. Il me semble qu'elles sont faites aussi pour la lecture.
Alors Thomas Ostermayer, quand vous retrouvez Olivier Cadiot, avec qui vous avez déjà travaillé, collaboré, on le disait notamment sur La Mouette de Tchekhov et Les Revenants d'Ibsen, qu'est-ce que vous lui demandez de mettre en avant comme dimension qu'on entendait moins ou qui était un peu passée sous silence pour vous dans les précédentes traductions que vous aviez envie de mettre en exergue dans cette nouvelle traduction de La Nuit des Rois de Shakespeare?
Tout d'abord, il ne faut pas vraiment demander quelque chose à Olivier parce qu'on s'entend bien, et je pense, j'ai l'impression qu'il comprend mon travail, et il comprend ce que je cherche. Alors, c'est plutôt quelque chose qui est dans l'air entre nous deux. Et deuxièmement, qui est important, les blank verse en anglais, c'est un vers avec certains syllabes par phrase. Ou par ligne, et puisque comme l'allemand, le français a pas a moins non plus de syllabes que l'anglais, on perd, si on respectait le vers, on perdrait du contenu. Alors c'est pour ça que quand je travaille en allemand ou en français, je demande aux auteurs de faire une traduction en prose, parce que moi je me souviens très très bien à l'expérience d'aller voir un Shakespeare dans un théâtre, en Allemagne, en France, et on comprend rien. On comprend pas vraiment de quoi ça parle. C'est un monde un peu étrange, féerique, oui, intéressant, mais au fond, ça parle de quoi, sur le fond? Alors, pour moi, c'est super important de rendre le récit d'une pièce, tout d'abord, mais aussi toutes les pensées philosophiques, existentielles, drôles, comiques, sur la vie, sur l'amour, de rendre ça tout dans une version où les spectateurs comprennent de quoi ça parle. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Après, c'est Olivier qui m'a dit, par exemple, que dans les traductions qu'il connaît, lui, l'aspect de l'amour entre Antonio et Sébastien était dans tous les cas refoulé. Alors cet aspect homosexuel, par contre, dans la pièce originale, c'est très important et ça existe et c'est présent dans la pièce. Alors pour ça aussi, il fallait demander à un écrivain de faire une nouvelle traduction.
Et elle vous plaît, cette traduction? C'est quoi votre relation, Thomas Ostermayer, au français? Moi, aussi? Est-ce que pour vous, c'est vraiment la langue?
Non, je peux vraiment pas juger ça. Parce que, et c'est pour ça que c'est une question de confiance, et de patience pour Olivier et pour sa personnalité et son art. Et les nuances qui sont importantes, je peux pas juger avec mon en français un peu limité. Ce que je peux dire, c'est que...
Il est très
hier,
exaspérant, en fait, c'est vrai,
hier, encore plus que les jours d'avant, et il y avait des gens dans la salle qui ont presque, à chaque phrase, ils ont réagi. Ce que veut dire que les phrases font du sens, et il y a une beauté, il y a des métaphores qui fonctionnent, il y a la poésie, il y a des blagues. Alors, après, ce que je peux dire, en ayant vu avec les spectateurs, c'est une très, très grande réussite, cette traduction.
Olivier Cadio.
Merci, mais là où c'est raté, c'est qu'il manquera toujours le flow, si je puis dire, pour être de Shakespeare, qui peut aussi bien faire dit par Laurence Olivier que par Eminem. Et en même temps, ce qui est beau, c'est qu'il y a à la fois ce phrasé, qui est très difficile à transmettre en français, mais aussi un art des formules qui est d'une modernité complète. Donc c'est à la fois baroque, c'est le paradoxe, et je ne vais pas faire une leçon sur Shakespeare, tout le monde est au courant, mais c'est à la fois extrêmement simple et extrêmement entortillé merveilleusement. Donc comment trouver un système pour que les phrases soient des catch, enfin que la phrase pète, si vous voulez. Et ça, c'était merveilleux de faire ça. Et encore une fois, le problème, c'est passer en prose, ça ne veut pas dire simplifier, hein, parce que beaucoup de gens, les auditeurs pourraient croire qu'on a du coup fait un lot Shakespeare facile. On a essayé. Alors après, on peut me critiquer sur une métaphore. Il y a les triples jeux de mots. Alors comment on prend quand il y a un triple jeu de mots, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le jeu de mots, par exemple sexuel, et on le tire? Et on emmène les deux autres derrière, ou alors est-ce qu'on le met un peu? C'est pour ça que c'est souvent refoulé. Parce que souvent le traducteur, il est fier d'avoir trouvé la solution géniale quand il y a un triple truc. Mais c'est que pour lui, il est content que lui. C'est le problème de la satisfaction du traducteur. Moi, je suis assez insatisfait. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait une chose qui pointe, qui s'entende. Et c'est vrai que les gens riaient en même temps d'une blague sexuelle. Parce que ce qu'on raconte sur Shakespeare, c'est qu'il y aurait le texte pour l'élite et le texte pour le peuple. C'est faux. C'est tout en même temps.
Et en même temps, le traducteur, il doit lâcher prise au bout d'un moment.
Il ne peut pas être auteur, mais il peut se servir de son matériel.
Il ne peut pas être acteur, parce qu'après, votre traduction va passer dans la bouche des comédiens du français.
C'est pas
avec
mon texte.
Leur phrasé, avec leur diction. Est-ce qu'ils ont un jeu, une manière très particulière pour vous, dans votre oreille, Thomas Ostermeyer, est-ce qu'ils ont une manière très particulière de s'approprier ce texte? Vous avez déjà travaillé avec d'autres comédiens français à d'autres reprises, mais c'est une première pour vous ici à la Comédie Française avec cette troupe.
Chaque acteur dans cette distribution est différente. Et je dirais même chaque acteur en Allemagne est différent l'un à l'autre. Et les différences entre un acteur allemand et un autre acteur allemand, c'est les mêmes différences qu'on peut retrouver entre un acteur français et un acteur allemand. Alors il n'y a pas vraiment cette différence dans la culture dans l'origine. Et dans cette distribution, c'est vrai que quelqu'un comme Denis, il s'approche d'une autre façon de cet langage que quelqu'un comme Montaigne. Mais ça a à voir pas forcément avec un certain respect du langage ou quelque chose qu'ils veulent retrouver, mais ça a à voir avec les personnalités, avec leur intérêt. Voilà.
Ils se sont facilement prêtés, les comédiens de la Comédie Française, au côté farce de la pièce. Est-ce qu'ils se sont facilement mis à nu?
Là, maintenant, je crois que c'était vraiment une bonne décision de commencer de travailler à la Comédie Française avec une pièce pareille, avec une comédie. Parce que on pourrait se vraiment lancer dans cette folie de la pièce, on pourrait avoir ou prendre du plaisir, on pourrait prendre du plaisir d'aller jusqu'au bout, de faire n'importe quoi. Les moments de la nudité que vous voyez, surtout le moment de Montaigne, c'est lui. C'est lui qui a proposé, c'est lui qui fait ça depuis deux représentations. Moi, je suis pour. S'il veut pas le faire, il ferait pas. Moi, j'ai rien demandé. Au début, on voulait travailler beaucoup plus avec des couleurs sur la peau, du body painting. Au bout d'un moment, on a abandonné cette idée. On l'a trouvé un peu banal. Ouais, on parle toujours de la nudité sur scène. Moi, ça m'ennuie un peu.
Je ne sais pas si c'est la totale nudité, mais il y a quand même des tenues, des costumes qui sont assez osés. Non, Olivier Cadio, entre les guépières de l'un, les corsaires de l'autre.
Non,
j'ai trouvé ça très délicat.
Et justement... très délicat, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des gens nus avec des fraises. C'est un peu... C'est comme si vous... Je sais pas, vous avez Louis XIV, seulement avec une perruque, mais nue. C'est très, 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 très noble.
Comme... Bon.
De toute façon, n'oublions jamais que cette pièce est une préparative d'une fête qui va avoir lieu. Ces gens-là vont trouver l'objet de leur désir, et ça va être le nouvel âge d'or, comme le dit Orsino à la fin. Et je peux vous garantir que backstage, ça va y aller très fort. Donc ils ont intérêt déjà à demi nu, tant qu'à faire. C'est un gain de temps considérable.
La nuit des rois, une pièce sur le trouble des apparences, mais aussi sur la vérité du désir. Et évoquons quand même ces costumes signés Nina Wetzel, une de vos collaboratrices à la Schaubühne, Thomas Ostermeyer, entre boxeur blanc pour les hommes et corset Madonna pour ces dames. Madonna, la Madone Madonna, qui est convoquée, ce nom en tout cas, à plusieurs reprises.
C'est dans le texte, hein, Madonna.
Oui.
Oui, parce que les gens pourraient croire que c'est...
Non, et elle n'est pas sur scène.
C'est dommage. Hein, mais
dans la pièce. Pourquoi l'avoir mobilisée ici, sur scène? Pas elle directement, mais ce qu'elle représente, cette reine de la pop, cette icône gay.
Ah, vous avez retrouvé...
Moi, je vois du Madonna, oui.
C'est vrai.
Ah oui, moi, j'ai pas vu du tout.
On n'a jamais y pensé.
Mais là où vous avez raison, c'est que le dernier mot de la pièce, Orsino dit en anglais, ça y est, j'ai enfin my Fancy's Queen. J'ai failli laisser en anglais, parce que Fancy's Queen, ça raconte quelque chose, c'est-à-dire la reine de mes désirs, la régente de mes désirs. Alors est-ce que, il y a un côté légèrement SM au final. Alors est-ce que Madonna utilise le fouet avec les lunettes noires et tout ça quand elle arrive?
Les lunettes noires, ouais, c'était plutôt Jackie Kennedy.
C'était plus Jackie
Kennedy. Tête.
Des lunettes noires, oui, ouais. Mais les corsets, c'est quand même ceux de Jean-Paul Gaultier, même si on n'a pas les seins coniques, comme il avait pu les faire sur scène parfois pour Madonna. Et vous n'avez pas vu du tout ou pensé à Iggy Pop dans le personnage de Sir Andrew, alors?
Je laisse parler, excuse-moi.
Non.
Non.
Ah si, moi oui. Ah, oui, oui.
Toi oui.
Oui, oui.
Mais
le serpent.
Tu ne signais pas les costumes.
C'est une prodigieuse acteur, je trouve.
Oui, moi je trouve aussi. Mais juste pour reprendre à cette question, parenthèse qui est intéressant, c'était elle représente Olivia, elle ne représente pas seulement cette personnage, mais elle représentait à l'époque, bien évidemment, Elisabeth elle-même, qui ne voulait pas se marier, qui était une sorte de virgin queen, et qui disait, moi je suis mariée avec mon peuple. Alors elle était entourée de conseillères, de gens qui étaient proches du pouvoir, qui voulaient la influencer, et la pièce parle de ça. Il y a le puritain qui essaie d'influencer elle, il y a le clown, le fou, et elle est entourée des gens tout le temps. Alors c'est une satire sur la politique, c'est une satire sur le pouvoir, et on a eu dans la tête, avec les costumes, on a eu dans la tête une version actuelle de cette Virgin Queen.
Cuculus non facit monacum, madame, l'habit ne fait pas le moine, rappelle le fou, il n'y a pas d'arlequin dans ma cervelle. Madonna, permettez-moi de démontrer votre folie. Sir Andrew et Sir Toby, Thomas Ostermeyer, ce club des fauteurs de troubles, et Fest, le fou aussi, qui incarne plutôt la raison dans la pièce. Qu'est-ce que ce trio va révéler?
Tout d'abord, ce sont des rôles extrêmement difficiles. Si on n'a pas dans la distribution des acteurs qui sont capables à faire les clowns, à être drôles, à être méchants, violents, et dans une folie extrême, la pièce est complètement ratée. Parce que il y a cet rythme dans la pièce, les scènes d'amour contrastées avec les scènes comiques. Alors il y a tout le temps cette trouble entre les deux univers. Moi, j'ai dit que dans cette pièce, à la première répétition, j'ai dit dans cette pièce, les personnages sont soit ils sont amoureux ou ils sont alcoolisés. Alors, ils sont tous ivres de l'amour ou ivres de l'alcool. Moi, je trouve que les trois, et aussi et surtout Stéphane Varupen qui joue le fou, ils ont vraiment réussi parce qu'on a tout dans la tête des mises en scène où on voit des fous qui essaient de faire rire, qui essaient d'être drôles, qui savent bien évidemment qu'il y a toujours derrière tout ça une certaine sagesse, une certaine philosophie, mais qui n'arrivent pas. Et Stéphane, de la première journée, il était sur le chemin. Hier, mon assistant, Elisa Leroy, qui est aussi le dramaturge, elle m'a dit après la représentation, parce que j'ai eu des invités, des amis qui sont venus me voir, et eux aussi, ils étaient fascinés de Stéphane. Et Elisa m'a dit, mais c'est en vrai, c'est l'acteur avec qui tu n'as pas travaillé. Je lui ai presque pas donné aucune indication pour son jeu. Tout ce qu'on voit, c'est vient de lui-même.
Olivier Cadio, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, mais parce que ce qui est difficile, c'est non seulement un rôle comique, mais c'est aussi un rôle de philosophe. Il l'appelle le Greek, non, dans la, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui distribue les bons et les mauvais points. Qui est meilleur poète? Qui est plus amoureux? Qui est plus fou? Qui est plus puritain? En fait, c'est un test terrifiant aussi, cette pièce comique. Et lui, il est distributeur de rôles, il est grand jury. D'ailleurs, il y a un moment donné, on dit le grand jury, etc. Et comme c'est une pièce qui sans cesse, où les gens parlent sans cesse, et se testent, comme chez Shakespeare en général, en direct. Disent, est-ce que j'ai bien fait ça? Ah non, je vais pas vous dire ça, c'est démodé. Ah non, excusez-moi. C'est-à-dire, sans cesse, la langue, comme la célèbre citation, le grand chevreau, la langue qui se retourne, la doublure est à l'extérieur. C'est très difficile. Il faut vraiment des grands acteurs pour être à la fois comique et en même temps distribuer, pour le coup, une sagesse. Et voilà, il y a un classement permanent et un test permanent.
Et il a le savoir gai, votre bouffon Fest, quelle époque incroyable, dit-il. Voilà. On sent bien, quand même, le parallèle aujourd'hui et hier entre Shakespeare et maintenant, que les masques sont encore de rigueur. Il n'y avait pas Madonna sur la scène hier soir quand j'étais à la Comédie Française. Il n'y avait pas non plus Iggy Pop, mais il y avait Alexandre Benalla.
Lumière dans la salle,
on peut avoir de la lumière.
Oh, il y a des bons ce soir.
Alors, je n'avais pas vu.
Et disons, Andrew, oui. Est-ce que tu as vu que M. Benalla est allé voir les sénateurs?
Oh là là.
J'ai vu ça.
J'ai vu dans Le Monde.
Et à la fin de l'entretien, on lui a dit, alors maintenant, quel est votre travail? Il a dit, bah, c'est Pôle emploi. Bah, mon gars, t'avais qu'à traverser la route, tu mettrais mieux. T'avais traversé la rue. Alors, tu es obligé de traverser la rue.
J'ai voulu vérifier les paroles qui sont quand même du président de la République.
Oui.
Pour moi, je n'ai jamais vraiment eu besoin de travailler. Je vis
sur
l'héritage de mon grand-papa.
Ouais.
Je suis né, je n'ai jamais eu, je n'ai jamais été dans le besoin.
Moi non plus.
Alors, je vérifie les paroles du président.
Oui.
Je suis à la police française.
Oui.
Je descends les escaliers. Je traverse la place verte. Je vais au Lebourg. Petit bar en face.
Le café,
et je dis bonjour. Et si vous avez le train? Je n'en ai pas vu.
Ah ben non, mais... Alors, c'est normal parce que tu as traversé une place, il faut traverser une rue. Dans la vie au travail, il faut traverser une rue. Moi, j'ai un ami
oui.
qui a traversé toute la vie des forêts, il n'a jamais eu de travail.
Ah, mais en admettant, je dis bien, qu'il traverse une forêt de boulot.
En tout cas, il y en a un en ce moment qui traverse beaucoup les rues, c'est Manuel Valls, du côté de Barcelone. Ah oui. Il va aller chez Calier.
Extrait de La Nuit des Rois, ou tout ce que vous voulez de William Shakespeare, adapté et mis en scène par le metteur en scène Thomas Ostermeyer avec nous dans ce studio, et traduit, nouvelle traduction par Olivier Cadio. Il écrit tout ça
Shakespeare
dans sa... C'était
pas dans le texte, oui, j'allais vous dire, c'était quand même pas dans le texte, mais on l'avait pour la mouette.
On l'a cherché,
Thomas aussi souhaite que les acteurs improvisent. D'ailleurs, quelquefois, les gens m'engueulaient après. Ils disaient, tout est formidable.
Ça,
la moitié, sauf les interprétations. Alors vraiment, comment avez-vous osé faire ça? Mais je me suis fait engueuler horriblement. Et lui était parti à Berlin. C'est pas grave. Mais moi, j'ai souffert. Et là, j'espère que là, ils vont comprendre que c'est pas tout à fait. C'est pas l'adaptation. D'ailleurs, c'est clair. C'est vraiment un projet.
Cette séquence-là, c'est pas vous qui l'avez imaginée, Olivier Cadio?
Non, pas du tout.
Vous
moi, j'ai fait une traduction, j'espère exacte. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est qu'après, comme chez Shakespeare, on improvise en plus. Et je crois que Thomas va répondre, mais il les laisse travailler, il les laisse faire, je ne sais pas comment tu ces improvisations ont un statut particulier, elles changent d'ailleurs presque tous les jours, non?
Oui, il change tous les jours. Et d'abord, c'est une façon de réveiller les acteurs. Parce que quand ils savent, ce soir, il faut à nouveau... avant la représentation, il faut regarder les actualités, voilà. Il faut se renseigner, il faut lire les journaux.
Parce que la Comédie Française, ils sont un peu enfermés quand même, ça les aide un peu.
Non, pas forcément, mais c'est une façon qu'ils comprennent tous les soirs. Ah, c'est en direct, c'est une première, les gens qui sont dans la salle, ils vont voir le spectacle pour la première fois, alors il faut être vraiment réveillé. Deuxièmement, s'il y a ce talent, et ce talent, il existe chez Laurent Stocker et Christophe Montenez. S'il y a ce talent, il faut profiter de ce talent. Troisièmement, moi, j'imagine le théâtre de Shakespeare. Personne ne le sait. Peut-être que c'était un théâtre très, très banal et très ennuyant. Mais moi, j'imagine le théâtre de Shakespeare. Et on a pas mal de traces dans ces pièces, aussi dans Macbeth, par exemple. J'imagine un théâtre qui était un théâtre d'actualité, un théâtre engagé, qui parlait de la politique sur scène, qui a fait rire des gens comme les fous le fait devant le pouvoir. Eux aussi, ils ont attaqué le pouvoir, je pense bien. Alors pour redonner cette souffle shakespearien, je demande les acteurs d'improviser.
Et ça vous plaît?
Bah, j'adore ça.
Voilà.
Il faut dire que je comprends pas toujours. Alors la première fois quand ils ont sorti ce mot un fourré de boulot, j'étais forcé à demander qu'est-ce que c'est ça. Et après j'ai compris. Mais j'adore beaucoup parce que si eux,
sinon vous ne les laisseriez pas faire.
Eux aussi, ils sont des grands empoisonneurs des mots.
Empoisonneurs de mots.
On dit que la musique alimente l'amour. Alors, musique, Orsino, acte 1, scène 1. Le trouble, l'ambivalence aussi dans le choix de la musique et de la voix d'un contre-ténor présent sur scène, Thomas Ostermeyer. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés autour de cette grande table, La Nuit des Rois ou Tout ce que vous voulez de Shakespeare, adapté et mis en scène par Thomas Ostermeyer en ce moment à la Comédie Française. C'est une création et c'est à voir jusqu'au 28 février. Merci Olivier Cadio d'être venu poser des questions et parfois répondre aussi à vos propres questions. Merci mille fois.
Merci.